Méditation de Louis de Grenade. L'agonie. Que fais-tu, mon âme? À quoi penses-tu? Ce n'est pas le moment de dormir. Allons de compagnie au jardin de Gethsémani, où tu entendras et verras d'étranges mystères. Tu y verras la joie affligée, la force dans la crainte, et la vertu qui succombe. Tu verras la majesté confuse, la grandeur rétrécie, et la gloire qui se couvre de nuages et de brouillards. Après le souper tout rempli de mystères, le Sauveur s'en alla, suivi de ses disciples, au mont des Oliviers, pour y faire sa prière. Avant d'entrer dans le combat de sa passion, afin de nous apprendre qu'en toutes les peines et toutes les tentations de cette vie, nous devons toujours recourir à la prière comme à une ancre sacrée par laquelle nous serons délivrés du fardeau de l'affliction. Ou bien l'on nous y donnera des forces pour pouvoir la porter, ce qui est une autre grâce plus grande, parce que, comme le dit saint Grégoire, notre Seigneur nous fait une plus grande faveur quand il nous fortifie pour supporter les peines que lorsqu'il nous enlève ses fardeaux. Il prit en sa compagnie pour ce voyage ses trois disciples les plus aimés, saint Pierre, saint Jacques et saint Jean, qui avaient été peu de temps auparavant les témoins oculaires de sa glorieuse transfiguration, pour qu'ils connaissent eux-mêmes combien, pour l'amour des hommes, le Sauveur a pris une apparence différente de celle qu'il leur avait fait voir si glorieuse dans cette vision. Et pour leur faire comprendre que les peines intérieures de son âme n'étaient pas moindres que celles qui commençaient à paraître au dehors, il leur dit ces paroles douloureuses. « Mon âme est très triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Ce vrai Dieu et vrai homme, homme mais meilleur que notre humanité et tout ce qui y est créé, dont les entretiens et la conversation étaient dans le sein du Père, à qui seul il communiquait ses secrets, il est maintenant attristé, si bien qu'il fait part de sa peine à ses créatures et les conjure de lui tenir compagnie. Restez ici et veillez avec moi. Ô richesse du ciel, ô félicité accomplie, qui t'a réduit, mon Seigneur, à cette extrémité, qui t'a fait avoir besoin des autres, qui t'a fait mendiant de tes créatures, si ce n'est l'amour qui désire les enrichir. Dis-moi, ô très doux Rédempteur, pourquoi crains-tu la mort que tu désires avec tant de passion, puisque l'accomplissement du désir doit causer de la joie plus que de la crainte? Les martyrs n'ont eu ni la force ni la grâce que tu as. Néanmoins, une seule goutte de la consolation qu'il recevait de toi, qui est la fontaine de la grâce, faisait qu'ils entraient très joyeusement dans la lice de leurs souffrances. Et toi qui es le dispensateur de la force et de la grâce, tu t'affliges et tu crains avant le combat? Assurément, Seigneur, cette crainte n'est pas de toi, mais de moi. De même que la force des martyrs ne provenait pas d'eux, mais de toi. Tu crains à cause de ceux que tu tiens de nous, et eux étaient forts à cause de ceux qu'ils recevaient de toi. la faiblesse de mon humanité, parée dans les craintes d'un Dieu, et la force de ta divinité se fait voir dans le courage de l'homme. Ainsi cette crainte m'appartient et cette force est à toi. Et pourtant, ton ignominie est à moi et ma louange t'est due. Une petite côte fut tirée du premier Adam afin d'en former une femme, et à la place de cet os qu'on lui ôta, on y mit un morceau de chair. Que veut dire cela, sinon que de toi qui es notre second Adam, le Père éternel a pris la force de la grâce pour en former l'Église ton épouse, dont il a pris la chair de faiblesse, afin de te la donner. Ainsi ton épouse est demeurée forte, et toi faible. Elle est forte de ta vertu, et toi, tu es affaibli de sa faiblesse. Tu nous fais en cela une double faveur, ô notre Père. Non content de nous revêtir de toi, il t'a plu de te revêtir de nous. Que les anges te bénissent à jamais pour l'une et pour l'autre grâce, puisque tu n'as point été regardant pour nous faire part de tes biens, et tu n'as pas craint non plus de te charger de nos maux. Que dois-je donc faire en considérant ces merveilles? En me reconnaissant rempli de tes miséricordes, je me glorifie en toi, et en te voyant chargé de mes misères pour mon amour, j'ai compassion de tes douleurs. Je me réjouirai de l'un et je m'affligerai de l'autre, et détrempant ainsi ma joie dans les larmes, je chanterai et je pleurerai tout ensemble le mystère de ta passion, méditant sans cesse le livre d'Ézéchiel, rempli de cantiques, de lamentations et de malheurs. Jésus porte sa croix. Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronnée au jour de ses épousailles et au jour de l'allégresse de son cœur. Ô mon très doux Sauveur, est-il possible que mon cœur ne se fende pas de douleur lorsque, en ouvrant les yeux, je vois le tableau si pitoyable qui m'est présenté? Je vois ta tête très délicate, devant qui tremblent les colonnes du ciel, percées de cruelles épines. Je vois ce divin visage tout meurtri et tout couvert de crachats, la brillante lumière de ce front obscurci, ses yeux sereins qui sont cachés par une pluie de sang. Quoi, mon Seigneur, tous ces fouets passés et cette mort à venir, et tant de sang répandu ne suffisent-ils pas, sans qu'il soit nécessaire, que les épines tirent le sang de force de ta tête, que les fouets semblent avoir épargné? Si ta seule mort suffisait à nous racheter, à quoi bon tant d'épreuves? Ô mon âme, pour que tu ressentes quelque chose d'un si douloureux changement, représente-toi devant les yeux l'ancienne image du Seigneur et l'excellence de ses vertus. Puis tu tourneras ton regard pour le voir tel qu'il est ici. Admire l'excellence de sa beauté, la modestie de ses yeux, la douceur de ses paroles, son autorité, sa mansuétude, la sérénité de son regard si digne de vénération. Quand tu l'auras ainsi considéré et que tu auras pris plaisir à voir en lui une figure aussi accomplie, détourne ton regard pour le voir dans l'état où il est ici, couvert de cet habit de moquerie, un bâton pour sceptre royal dans la main, et cet horrible diadème sur la tête, ses yeux meurtris, ce visage de mort, et cette face toute boueuse de sang, et toute souillée par les crachats répandus sur son visage. Considère-le dedans et dehors, le cœur percé de douleur et le corps chargé de plaies, abandonné de ses disciples, poursuivi par les Juifs, tourné en dérision par les soldats, méprisé par les prêtres, chassé par un roi cruel, accusé injustement et délaissé de toute faveur humaine. Ne te représente pas cela comme une chose qui soit déjà passée, mais comme si elle était encore présente, non comme une douleur étrangère, mais comme la tienne propre. Mets-toi à la place de celui qui l'endure. Pense à ce que tu ressentirais si, en une partie aussi sensible que la tête, l'on te plantait plusieurs épines très aiguës qui pénètrent jusqu'aux os. Ô splendeur de la gloire du Père, qui donc t'a si maltraité? Ô miroir sans tache de la majesté de Dieu, qui t'a souillé de la sorte? Mes péchés, mon Seigneur, sont les épines qui te piquent. C'est moi qui suis le bourreau et la cause de ta douleur. En prenant ma mort, tu m'as donné ta vie, et en prenant sur toi mes péchés, tu m'as rempli de ta grâce. Et ainsi, ô mon Rédempteur, toutes les peines sont pour toi, et les trésors et les richesses m'appartiennent. Ta pourpre me revêt, ta couronne m'honore. Tes meurtrissures m'embellissent, tes douleurs me consolent. Tes amertumes me nourrissent, tes plaies me guérissent. Ton amour me transporte et m'enivre. Le couronnement et les moqueries étant terminés, le juge prit le Sauveur par la main dans le pitoyable état où il était, et l'entraînant vers le peuple, il leur dit « Voici l'homme », comme s'il disait « Si vous désirez sa mort à cause de l'envie que vous lui portez, voyez dans l'état dans lequel il est. Il est plus digne de pitié que d'envie. Vous craignez qu'il ne se fasse roi ? Il est si défiguré qu'il paraît à peine être un homme. Que redoutez-vous de ces mains qui sont liées? Par là, tu peux reconnaître, mon âme, dans quel état parut le Sauveur, puisque le juge a cru que sa seule apparence adoucirait même le cœur de ses ennemis. Combien est-il mal pour un chrétien de ne pas avoir compassion des douleurs de Jésus-Christ? Alors qu'un juge païen croyait qu'elle pouvait amollir les cœurs les plus méchants, où il y a de l'amour, il se trouve aussi de la douleur. Comment donc une personne peut-elle dire qu'elle a de l'amour pour Jésus-Christ si elle n'a pas pitié de lui en le voyant sous cette apparence? Voyant que tous les châtiments infligés à cet agneau innocent n'adoucissaient en rien la fureur de ses ennemis, Pilate entra dans le prétoire et s'assit à son tribunal pour donner l'arrêt définitif de cette affaire. La croix était déjà préparée à la porte, et cette effroyable bannière volée en l'air, menaçant de loin la tête du Sauveur. Donc, lorsque la cruelle sentence fut donnée et prononcée, les ennemis y ajoutèrent une nouvelle cruauté. ils chargèrent le bois de la croix sur ses épaules, déjà meurtries et lacérées par la rigueur des fouets. Ce Seigneur plein de pitié ne refusa pas cette charge sur laquelle étaient tous nos péchés. Au contraire, il l'embrassa avec une souveraine obéissance et une parfaite charité pour notre amour. Et ainsi il se mit en chemin pour ce voyage, comme un autre Isaac, avec le bois sur ses épaules, jusqu'au lieu du sacrifice. La charge avait été autrefois partagée entre Isaac et Abraham. Le fils portait le bois et le corps qui devait être sacrifié, et le père tenait le feu et le couteau pour immoler cette victime. Et ici, le feu de l'amour pour les hommes et le couteau de la divine justice ont mis le Christ de Dieu en croix. Ces deux vertus suscitaient un débat dans la poitrine du Père éternel pour que chacune ait le droit auquel elle prétendait. L'amour priait pour qu'il pardonne aux hommes, mais la justice s'opposant à cela demandait que les pécheurs soient punis. Pour que les hommes reçoivent l'indulgence et que les pécheurs soient châtiés, on trouva comme expédient qu'un innocent meure pour tous les autres. Et c'est là le feu et le couteau que le patriarche Abraham tenait dans ses mains pour sacrifier son fils, parce que l'amour de notre salut et le zèle de la justice ont fait que le Père éternel a offert lui-même son fils en croix. Voilà donc l'innocent qui marche avec ce très pesant fardeau sur ses faibles épaules. Un peuple nombreux le suivait et plusieurs saintes femmes l'accompagnaient de leurs larmes. Mais qui n'aurait pas pleuré amèrement en voyant le roi des anges aller à pied, pas à pas, chargé de cette lourde croix, les genoux tremblants, le corps penché, les yeux abattus, le visage tout en sang, avec cette guirlande sur la tête, et parmi ces cris honteux et ces cris hostiles que l'on proférait contre lui. Qui pourrait comprendre jusqu'où cette douleur transperça le cœur de la très sainte Vierge? Ce cœur très aimant défaillit, son visage blêmi, et tous ses membres très purs se couvrirent d'une sueur mortelle qui, sans doute, lui aurait ravi la vie à l'instant si la providence divine ne l'avait pas réservé pour des travaux encore plus rudes et pour une plus grande couronne. La Sainte Vierge s'en va donc en hâte pour chercher son fils, le désir de le voir lui rendant les forces que la douleur lui ravissait. Elle entend de loin le cliquetis des armes, la foule du peuple et les cris des hommes qui allaient au-devant, sonnant de la trompette. Tout de suite, elle aperçoit l'éclat des épées et des piques qui brillent dans l'air. Elle trouve sur le chemin des gouttes et des traces de sang qui faisant assez connaître où son fils était passé, la conduisait sans autre guide. Elle s'approche de plus près de son fils bien-aimé et lève ses yeux, obscurcis par la douleur, pour voir si elle pourrait reconnaître l'unique objet de ses désirs. Ô amour et tremblement du cœur aimant de Marie! D'une part, elle désirait le voir, et d'autre part, elle ne pouvait le voir. Et alors, ces deux flambeaux du ciel se regardant mutuellement, se perçaient le cœur de leurs yeux et blessés par leur seul regard, leurs âmes affligées. Leur langue n'avait point de parole, mais l'affection naturelle d'un doux fils parlait suffisamment au cœur affligé de la Vierge en ces termes. « Qu'es-tu venu faire ici, ma colombe, ma bien-aimée et ma mère ? Ta douleur accroît la mienne et tes tourments me font de nouveaux supplices. Retourne donc dans l'arche, ô ma colombe, jusqu'à ce que les eaux de ce déluge soient écoulées, car tu ne trouveras pas ici où reposer tes pieds. Là, tu vaqueras à la contemplation et à la prière. » À quoi le cœur plein de pitié de la mère répondit à celui de son fils bien-aimé. « Pourquoi me commandes-tu cela, mon enfant ? Pourquoi m'obliges-tu à m'éloigner de ce lieu ? Tu sais, mon Dieu, que tout m'est permis en ta présence et que je n'ai point d'autre oratoire que partout où je peux te trouver. » Comment me serait-il possible de me séparer de toi sans me séparer de moi-même? Cette douleur occupe si entièrement mon cœur que je ne saurais penser à autre chose. Où irais-je sans toi? À qui demanderais-je ou de qui pourrais-je recevoir une consolation? Mon cœur est tout en toi, et je n'ai point établi ma demeure ailleurs que dans le tien, et toute ma vie dépend de ta vie. S'il t'a plu de loger dans mes entrailles l'espace de 9 mois, pourquoi ne me permettrais-tu pas de demeurer ces 3 jours-ci dans les tiennes? S'il te plaît de m'y recevoir, j'y serai crucifié avec toi qui es crucifié, et enseveli avec toi dans un même sépulcre. Je boirai avec toi le fiel et le vinaigre. Avec toi, je souffrirai sur la croix et je rendrai mon âme avec la tienne. » Tels furent les dialogues du cœur affligé de la très sainte Vierge, tandis qu'elle faisait ce chemin si triste jusqu'à ce qu'elle fût arrivée au lieu destiné pour ce divin holocauste. Le mystère de la croix. Réveille-toi, mon âme, commence à méditer le mystère de cette sainte croix, son fruit a réparé le dommage de cet autre fruit empoisonné, de l'arbre défendu, ainsi que le divin époux l'a signifié à son épouse dans le cantique lorsqu'il a dit « Ô mon épouse, je t'ai fait revivre sous un arbre parce que ta mère fut déshonorée sous un autre arbre lorsqu'elle fut trompée par ce vieux serpent. Considère comme le Sauveur fut attaché à la croix. L'incroyable douleur qu'il souffrit lorsque ses gros clous si aigus lui percèrent ses membres les plus fragiles de son corps, lui qui était le plus délicat de tous les hommes. Considérez aussi quelles furent les douleurs de la Sainte Vierge quand elle vit de ses yeux et qu'elle entendit de ses oreilles les cruels et rudes coups que l'on réitérait de façon si rapprochée sur ses divins membres. Qui aura le cœur si endurci, ô mon Sauveur et Rédempteur, qu'il ne se brise de douleur, alors qu'en ce même jour les pierres se fendirent, quand il considérera tes souffrances sur la croix? Tu es assiégé, Seigneur, par les douleurs de la mort et les flots de la mer ont pris possession de ton cœur. Elles t'ont abaissé jusqu'au fond des abîmes où tu ne trouveras rien sur quoi t'appuyer. Ton Père, mon Seigneur, t'a abandonné. Qu'attends-tu des hommes? Les ennemis crient contre toi, les amis te fendent le cœur, ton âme est affligée, et par égard pour moi, tu as fermé la porte à tout ce qui pourrait te consoler. Certes, ta pénitence fait bien voir que mes péchés sont énormes. Je te vois, ô mon roi, attaché sur un poteau où rien ne supporte ton corps, que trois crampons de fer où ta chair sacrée est pendue sans avoir d'autre soulagement. Quand le corps devient pesant pour les pieds, les ouvertures des clous s'élargissent, et si tu t'appuies sur les mains, leurs blessures s'accroissent par le poids naturel de ton corps, de sorte que les membres ne sauraient se secourir les uns les autres sans un égal préjudice. Enfin, ta tête très sacrée est livrée à des supplices et affaiblie par la couronne d'épines qui lui sert d'oreiller. Ô très sereine Vierge, que tes bras seraient bien employés pour faire cet office, mais ce ne sont pas maintenant les tiens qui lui rendent ce devoir, cela est réservé à ceux de la croix. C'est sur eux que cette tête sacrée se penche quand elle veut se reposer, et le soulagement qu'elle en reçoit est de pousser les épines plus avant dans la substance du cerveau. Après tout cela, je vois ces quatre plaies plus importantes comme quatre fontaines d'où coule toujours le sang dont le pavé est empourpré et arrosé. Je vois ce très précieux liquide répandu et foulé sur la terre d'où il jette des cris et des appels beaucoup plus agréables que ne l'ont jamais été ceux du sang d'Abel. Car celui-là demandait la vengeance contre l'homicide, tandis que celui-ci réclame le pardon pour le pécheur. Mon Seigneur, enseigne-moi, depuis la chair de la croix, les lois de la patience qui m'est très nécessaire. J'ai quelquefois dit, à part moi, que je voudrais n'avoir de querelle avec personne et vivre en paix avec tout le monde. Et pourtant, il me semble à propos de fuir la présence des autres pour éviter les occasions de disputes et de colère. En cela, je reconnais maintenant ma faiblesse, car fuir la présence des autres n'est pas tant vaincre la colère que chercher à couvrir son imperfection. Je veux donc désormais être disposé à vivre non seulement avec les bons, mais encore avec les mauvais, en conservant la paix avec ceux-là même qui la détestent. Je décide d'agir ainsi. Donne-moi la grâce, mon Dieu, de pouvoir l'accomplir. S'il m'ôte les biens, je ne m'attristerai pas pour cela, en te voyant dépouillé et tout nu sur une croix. S'il m'ôte l'honneur, cela ne me fera point perdre non plus la paix, puisque je te vois tellement abattu et déshonoré. Si les amis me font défaut dans le besoin, je n'en serai pas davantage déconcerté, puisque je te vois seul et abandonné, non seulement par tes disciples et tes amis, mais aussi par ton propre Père. Et quand bien même il me semblerait être parfois délaissé par toi, je ne perdrai pourtant pas confiance. Étant donné que tu ne l'as point perdu dans l'abandon par ton Père même. Car tu n'as pas eu achevé de dire « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» que tu as aussitôt remis ton esprit entre les mains de celui-là même qui t'avait abandonné. Je vous appelle donc maintenant, angoisse et persécution, pour que vous veniez fondre sur moi, puisque vous ne pouvez me faire autre chose que de me donner un sujet d'imiter mon Seigneur Jésus-Christ. Mais mon Sauveur, si mes peines sont longues et ne passent pas vite, avec quoi me consolerai-je? Je vois que les vôtres, quoique très cruelles, n'ont pas duré longtemps. Tout le martyre de ta passion n'ayant pas duré plus de 20 heures. Avec quoi se consolera donc celui qui demeure 10 ans et plus dans un cachot ou dans de continuelles privations et des guerres intestines au sein de sa maison? Que fera-t-il, dis-je, en un si long combat? Réponds, mon Seigneur, à cette demande, puisque tu es la parole et la sagesse du Père. Dis-moi si tu es la consolation générale de tous les maux, même s'ils sont d'une très longue durée, ou s'il nous faut chercher quelque autre consolateur que toi en de telles circonstances. Certes, il n'est pas besoin d'autre consolation que toi-même, puisque cette croix sur laquelle tu souffres n'a pas été assurément un martyr d'un seul jour, mais a duré autant de temps que la longueur de ta vie. Car à l'heure même et au moment de ta très sainte conception, la croix ne t'a-t-elle pas été présentée avec tous les maux que tu devais y souffrir? Et ainsi, tu l'as eue présente devant tes yeux, pendant tout le temps où tu as vécu sur la terre. Et de même que le passé et le présent ont toujours été présents à ton divin esprit, ainsi en était-il de tous les supplices de ta très douloureuse passion. Dès ce moment-là, furent présents à ta pensée la croix, les clous, les fouets, les épines et la lance cruelle. Dès ce moment-là, tous ces outils te furent aussi présents que lorsque tu les aperçus de tes yeux le vendredi de tes souffrances. Quant à nous, pour fâcheux que soient les maux qui nous affligent, nous avons toujours quelque heure de relâche quand le remède ou l'adoucissement le permet, mais ta peine a toujours été continuelle, ou du moins elle tourmentait souvent ton âme pendant que tu vivais en ce monde. Et quand bien même cette peine ne t'aurait pas tourmenté, le seul zèle pour l'honneur de ton nom et le salut des âmes suppliait et assez pour rendre les supplices continuels. C'est ce zèle qui vraiment rongeait et déchirait ton cœur et qui était pour toi un martyr plus cruel même que la croix et la mort. Ajoutez à cela l'obstination de ce peuple rebelle et la dureté d'âme de tous les autres pécheurs. Tu étais envoyé pour leur apporter un remède, et ils ne voudraient pas profiter de ce bienfait, ni y reconnaître le temps où ils étaient visités. C'est de là que sont nées ces larmes pleines de pitié que tu as répandues sur la ville de Jérusalem, ainsi que la plainte que tu as exprimée par la bouche d'Isaïe. J'ai dit, j'ai travaillé en vain, et pour le néant et sans cause, j'ai épuisé mes forces. Et pourtant, mon âme, tu ne manques pas ici de quoi te consoler. Tu ne manques pas non plus de compagnie dans tes épreuves, pour pénibles et ennuyeuses qu'elles puissent être. Car bien que les dernières souffrances de ce corps très saint aient été très brèves, celles de son cœur très digne d'être aimé et de son âme bénie ont été très pénibles. La mort de Jésus. Jusqu'à jusqu'ici, mon âme, tu as traité de la mort et des douleurs du Fils. Il est désormais temps que tu commences à célébrer et à pleurer celle de la mère. Ô Vierge très innocente,